Bonjour et bienvenue à bord de ma mobilette de l'espace sur les routes de la musique. Cette semaine, nous allons nous embarquer dans un voyage antique et mystique qui va nous mener sur un des premiers chemins de sagesse entre l'Orient et l'Occident, des hautes vallées de Perse au 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'Écosse du siècle des Lumières. Ces deux pays que tout oppose, la géographie et le temps, sont liés, en fait, par une confrérie de sagesse. 609 avant Jésus-Christ, la bataille de Carchemish, Babylone définitivement écrase son grand et principal rival égyptien. C'est la fin de l'Empire égyptien. Babylone s'empare de ses richesses, mais aussi de tout son savoir, à travers ce qu'ils détiennent, les prêtres. Une partie de la prêtrise égyptienne est déportée à Babylone et l'autre dans les hautes vallées perses. On va voir que ces deux factions étaient déjà opposées en Égypte depuis Akhenaton. Non, décidément, nous n'en aurons jamais fini avec Akhenaton. Et nous allons voir comment une partie de ce savoir égyptien va voyager des hauts plateaux de Perse jusqu'à l'Europe septentrionale et comment une tradition trimillénaire et orientale va influencer notre siècle de lumière en Europe. Attachez-vous et ouvrez grand vos oreilles, nous sommes partis à l'écoute du monde.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Il faut attendre le siècle des Lumières en Europe pour qu'enfin soit abolie la distinction entre Dieu et le monde. La formule « abolir la distinction entre Dieu et le monde » émane d'un juif renégat vivant dans le ghetto d'Amsterdam au XVIIe siècle. un juif excommunié par les siens au nom de sa vision peu orthodoxe d'un Dieu immanent, c'est-à-dire d'un Dieu qui est partout, en toutes choses, dans tous les petits objets, ici-bas, en vous, dans votre poche, en moi, contrairement à un Dieu transcendant qui serait très haut et très loin dans le ciel. Banni deux fois des chrétiens parce qu'il est juif et des juifs parce qu'il est accusé d'athéisme, celui que Gilles Deleuze surnommait le prince des philosophes, celui que Nietzsche qualifiait de précurseur en raison de son refus de la théologie, celui sans qui, selon Hegel, il n'y a pas de philosophie, celui-là se nommait Spinoza.
Je me demande en effet s'il n'y a pas dans Spinoza certaines thèses particulières qui participent d'une tradition athée.
Le credo libérateur et révolutionnaire de Spinoza est le suivant, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. En quoi cette formule est-elle inédite ? En ceci qu'elle refonde enfin un tout. Il n'y a plus de dualité, le monde de l'esprit contre le monde matériel, le monde pur contre le monde corrompu, le paradis contre l'exil, mais une nature indivisible qui représente l'absolu. Une nature où Dieu est dans chaque chose, Dieu étant cette force vitale et incommensurable.
Et Spinoza est ravi, car le printemps est en train d'arriver.
Le mois de mars, c'est la fin de l'hiver ou le début du printemps, c'est sûr. C'est le réveil de la nature dans le jardin.
Les bourgeons pointent, le jardin grouille. Spinoza s'assoit dans l'herbe et ne fait plus qu'un avec la nature.
En latin, Spinoza écrit « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature.
Ô vous, esprit de la nature.
Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé la nature ou l'univers extérieur au monde. Il est la nature, il est l'univers, il est le monde. Ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire une philosophie pour laquelle Dieu est tout et tout est Dieu.
Dieu est dans le chant du rossignol, Dieu est dans nos mains, mais Dieu est aussi dans le caniveau et dans les canines acérées des hommes.
Le Dieu de Spinoza est donc un Dieu par-delà le bien et le mal.
Et dire que Dieu, c'est la nature, à l'époque, ça revient à dire qu'il n'y a pas de Dieu.
Quelque chose à rajouter, Spinoza ?
C'est le grand moment des semis de radis, de choux, de poireaux, enfin toutes ces plantes que vous allez installer à partir du mois d'avril, mais dans votre jardin.
Spinoza plante donc des radis, nous l'accompagnons. Et en plantant, nous créons. Et alors, nous sommes un peu Dieu ? Spinoza, qu'en pensez-vous ?
En dehors de Dieu, nulle substance n'est ni ne peut être conçue. Aussi ne peuvent-ils être que dans la seule nature divine et n'être conçus que par elle seule. Donc rien sans Dieu ne peut ni être conçu.
Mettons en œuvre les conseils de Spinoza le jardinier.
Surtout semer des fleurs champêtres, comme les pavots, les zinnias.
Spinoza a ouvert la voie et à sa suite, on redécouvre le cosmothéisme des Égyptiens de l'Antiquité et ses dieux qui symbolisent des énergies ne portent des noms que pour mieux les différencier. La religion antique égyptienne est même revue comme un des fondements de la tolérance et de la traduction interculturelle. Après tout, les dieux sont les mêmes pour tous les peuples, le dieu du soleil, le dieu de la guerre, la déesse de l'amour. Simplement, ils ont des noms différents selon la langue du pays. Les mythes égyptiens revisités vont inspirer une nouvelle religion dans l'Europe du XVIIIe siècle, les Lumières. Internationale, interculturelle, qui va donner de nouveaux rites et un nouveau cadre, la franc-maçonnerie moderne, née en 1711 sous l'impulsion du pasteur écossais Anderson. Qu'est-ce qu'un pasteur écossais vient faire dans cette histoire ? Qui part de l'Égypte antique à l'Europe moderne, comment un natif du coin le plus à l'ouest du continent européen trouve sa source et son inspiration dans l'Orient mythologique. Il faut revenir une fois de plus en Égypte, au 7e siècle avant Jésus-Christ, pour répondre à cette question. Et non, vous n'y couperez pas.
Oh, attends. Oh, tout-puissant Dieu Soleil.
Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind?
dollars since you broke my heart. Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? Who loves the sun? Not everyone. Who loves the
The Velvet Underground qui chantait pour une fois presque juste et qui nous chantait Who Loves the Sun. Back to Akhenaton. Non, on s'en sort jamais, me dites-vous. Bah oui, aujourd'hui encore. Il est toujours d'actualité Akhenaton. Explication. Akhenaton, même si son règne ne dure que 20 ans, même si après sa mort sa cité est désertée et que l'on rétablit le culte des anciens dieux, Akhenaton a provoqué avec son culte du dieu unique Aton un schisme irréversible dans le clergé égyptien. Clergé qui va se séparer dorénavant en deux parties qui vont se combattre. On est en 1370 avant Jésus-Christ. Le monothéisme existe en fait en Égypte depuis toujours. Il y avait un dieu créateur et tout-puissant, c'était le dieu soleil Ra. Les autres dieux n'étaient que des déclinaisons du dieu principal et unique. Personne n'était dupe. Mais le pouvoir, pour installer sa légitimité, instrumentalise souvent la spiritualité, qui se trouve dévoyée et transformée en idolâtrie. Toutes les religions suivent cette tendance. Heureusement, de temps en temps dans l'histoire, on a des rectifications périodiques. Akhenaton est la première rectification et le retour aux origines de la spiritualité égyptienne. Toujours est-il que désormais, deux branches du clergé vont se combattre pendant des siècles jusqu'à la défaite finale de l'Égypte en 609 avant Jésus-Christ, à la bataille de Carchemish. Petite photographie de l'Orient compliqué du 7e siècle avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, deux peuples concurrents s'affrontent, les Assyriens au nord et les Babyloniens au sud. Quand Nabucodonosor, roi de Babylone, prend son trône, les Assyriens ont été défaits par son père définitivement, après des centaines d'années de rivalité et de guerre.
Bienvenue à Babylone.
Babylone, la plus célèbre des capitales du monde antique, était située presque au cœur de la Mésopotamie, au centre de la voie fluviale constituée par l'Euphrate et reliée par la route à l'Asie mineure et à la Perse. Elle longeait sur plus de 3 km la rive gauche de l'Euphrate, qui à cet endroit formait un zigzag. Son nom sumérien, Ka-Dingira, traduit par les sémites Bab-Ili, porte du dieu.
Nabucodonosor nous ouvre les portes de son royaume.
Je suis Nabucodonosor, le roi de Babylone, le prince puissant, le favori de Marduk et de Nabu. Lorsque Marduk m'eut façonné dans le ventre de ma mère, dès que je fus né et créé, je suivis les voies divines.
On suit Nabucodonosor qui suit les voies divines et on se retrouve sur une terrasse qui surplombe Babylone.
Pour que l'ennemi méchant n'atteigne pas le territoire de Babylone, dit-il, je construisis un grand terre-plein de la rive du Tigre jusqu'à la rive de l'Euphrate et j'ai entouré la ville avec de puissantes eaux. Et pour que le mal ne puisse opprimer Babylone, ce qu'aucun roi n'avait fait avant moi, j'ai construit un mur fort.
Une nation sans frontières n'est pas une nation. Nous allons construire immédiatement un mur.
War.
Babylone, moi je croyais que c'était les jardins suspendus, le royaume des arts, la tour de Babel.
Mais Nabucodonosor est aussi un roi de justice. Le roi ne se reposait ni le jour ni la nuit, mais avec conscience et mesure, il établit des règlements meilleurs pour la cité, construisit une nouvelle cour de justice, supprima la corruption et les pots de vin, il apporta le bien-être au pays.
En tout cas, aujourd'hui, 2017, Babylone est enterrée à 100 km au sud de Bagdad.
Quelle que soit leur génération, les Irakiens ont tous connu la guerre contre l'Iran, les Américains, Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est la guerre qui menace.
Après la défaite des Assyriens, les Égyptiens aussitôt s'engouffrent dans l'espace libre et mènent une expédition contre les nouveaux vainqueurs, les Babyloniens. Sauf que les Babyloniens s'allient aux Mèdes, les ancêtres des Kurdes, et aux Perses, ancêtres des Iraniens. Et ensemble, sous le commandement de Nabucodonosor, ils vont battre le pharaon Nekao II à Carchemish. C'en est fini pour toujours de l'influence égyptienne sur le Moyen-Orient. C'en est fini pour toujours de la puissance séculaire de l'Égypte, mais pas de son esprit.
We shed some tears of love now, like a desert in the rain, when son of the dead are waking up. There's nobody like my mom, there's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong, I've missed it so long now.
Blaze Territory.
André Manoukian, Les routes de la musique sur France Inter.
Le schisme d'Akhenaton a divisé la prêtrise égyptienne qui s'affronte en deux blocs de 1300 jusqu'en 600 avant Jésus-Christ. En gros, les tenants d'Akhenaton sont les protestants de l'époque qui instaurent une réforme. Et les tenants des anciens cultes sont les catholiques de l'époque qui veulent conserver les anciens cultes pour mieux diriger le pays. En 609, quand l'Égypte est défaite par les Babyloniens et les Perses, une partie du clergé égyptien est déportée en Perse, ceux restés fidèles à Akhenaton. Et l'autre partie, à Babylone. Pourquoi est-ce qu'on déporte les prêtres ? Parce qu'ils sont les gardiens du savoir et des richesses. Les temples sont les premiers lieux visés par les envahisseurs, puisqu'ils sont les réserves d'or et les centres high-tech du pays. Les vainqueurs n'ont qu'à se baisser pour ramasser les offrandes déposées depuis des siècles par les fidèles, gardées par les prêtres, comme les conquistadors espagnols, 2000 ans plus tard, n'auront qu'à entrer dans les pyramides aztèques pour s'emparer des montagnes d'or entassées. Mais la high-tech de l'époque aussi impressionne les nouveaux venus persés babyloniens qui sont d'un niveau de civilisation moins avancé. Alors ils font main basse sur la techno en s'emparant des prêtres qui sont à la fois les ingénieurs, les artistes, les peintres, les sculpteurs, les scribes, les écrivains, les soigneurs de l'époque. Le haut du panier va aller à Babylone et les autres, les prêtres prolétaires, vont aller dans les hautes vallées perses, précisément Shiraz, Kashan, qui sont des hauts lieux de spiritualité. On les renvoie d'une certaine manière à des sources antérieures de sagesse. Les prêtres égyptiens déportés vont développer deux traditions cousines. La tradition de Babylone va donner l'Ancien Testament et va se nommer la Maison de David. La tradition de Kashan va s'appeler la maison de Jacob et va être précurseur du christianisme. Les prêtres égyptiens de Babylone vont transposer la religion égyptienne et lui agréger des traditions babyloniennes en adaptant notamment la légende de Gilgamesh, le mythe de la création, le mythe du déluge. Ils vont en quelque sorte synthétiser les traditions égyptiennes et mésopotamiennes dans une succession de textes qui va devenir l'Ancien Testament à l'origine de la tradition judaïque. Ils vont plaquer sur l'histoire des rois locaux l'histoire de l'Égypte. De plus, ils sont de fins administrateurs. Alors Nabuchodonosor leur fait une promesse. S'ils administrent correctement les deux provinces dans lesquelles ils sont établis, eh bien ces deux provinces seront à eux dans 70 ans. Nos prêtres vont donc gérer ces terres, établir des frontières, lever des impôts. Et c'est Darius, roi de Perse, 70 ans plus tard, qui honorera la promesse. Ces deux provinces porteront chacune les attributs de la double couronne des pharaons, avec leurs couleurs rouge et blanche, et deviendront la Judée et la Samarie.
C'est un drôle de personnage, ce Nabuchodonosor.
Avez-vous remarqué qu'il y a dans la Bible beaucoup de textes burlesques ? Le roi Nabuchodonosor est un personnage, c'était un grand empereur qui a régné sur un immense empire.
Excusez-nous, monsieur le raconteur d'histoire, mais on entend une musique là. D'où vient-elle ?
Le roi Nabuchodonosor, pour manifester sa puissance grandiose, décide un jour de fabriquer une statue d'or. Et dès que cette statue sera élevée, une musique qui retentira dans tout le royaume marquera que tous les peuples, toutes les populations asservies au roi devront se prosterner devant la statue.
Les recherches archéologiques étant limitées à des trouvailles en pierre ou en os, il nous est difficile de déterminer la nature de cette musique. Enfin, nous pouvons toujours imaginer. Peut-être c'était Camille Saint-Saëns imploré à genoux. Ou alors Bonnet-M'. Ou alors à genoux de Julien Clerc. Oh, ça marche. Julien chante et tout le monde se lève et se prosterne.
Tout le monde se prosterne, sauf trois jeunes gens, trois jeunes juifs déportés à Babylone, qui ne l'entendent pas de cette oreille. Le roi fait venir ces trois jeunes gens et leur dit « Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas prosternés ?» Les trois jeunes gens disent « Nous ne pouvons pas, nous avons un Dieu, maître de tout, et nous n'allons pas adorer autre chose que lui. » Le roi leur dit « Vous connaissez la sentence, ceux qui n'adorent pas la statue sont jetés dans une fournaise ardente. »
Les trois jeunes gens veulent entamer un discours sur la musique et sa force, mais...
Ils sont jetés dans la fournaise, et là, ô miracle, ils sont accompagnés par un ange et chantent des cantiques de louanges.
Résumé, la musique qui sauve d'une fournaise ardente, c'est un cantique.
Et la musique de Nabucodonosor, c'est Julien Clerc. Et la morale de cette histoire, laquelle est-elle ?
La vie venue de Dieu est plus forte que tout, plus forte en particulier que les pouvoirs politiques tout-puissants, totalitaires.
La musique, elle, elle a les pleins pouvoirs.
Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you. Initially, I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some sweet, so let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you.
I don't need nothing else but you.
Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you.
Bienvenue à ce chanteur néo-soul qui s'appelle Khalid et qui vient du Texas. Comme quoi, il n'y a pas que des George Bush au Texas. Il nous chantait « Location ». La prêtresse égyptienne, après la défaite de Carchemish au 7e siècle avant Jésus-Christ, est exilée en deux endroits. Les hautes vallées perses autour de Cachan et Babylone, emportant avec elles tout le savoir égyptien. Deux maisons s'affrontent qui vont prendre pour nom la maison de Jacob et la maison de David. Deux familles égales en noblesse dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Ça, c'est le début de Roméo et Juliette. Si nos deux maisons ne sont pas celles des Capulet et des Montaigu, l'affrontement de la maison de Jacob et de la maison de David est au moins aussi intense et va durer des siècles. à tel point que la plupart des grands prophètes de la Bible vont se donner pour mission de les réconcilier, ces deux maisons, sans jamais y parvenir.
Nous allons ce matin remonter loin dans le temps.
Les hommes voyagent au gré des guerres et des conquêtes.
Cette histoire, c'est celle de la Mésopotamie antique.
Nos racines viennent de loin, elles ont voyagé avec le vent.
Regardez la couleur du ciel pour demain matin avec une nouvelle perturbation. On retrouve un ciel bien couvert, pas mal d'averses pour demain.
Et de déportation en portation, la carte change.
Nabucodonosor arriva en personne avec son armée. Le roi de Juda, Yoyakin, se rendit aussitôt. Il fut déporté en Babylonie avec sa mère, ses femmes, toute l'aristocratie civile et militaire.
Un vent de force 3 à 7 provoque des migrations du nord au sud et vice-versa.
Toujours beaucoup de vent sur la façade ouest du pays.
Les exilés, dans leur ensemble, ne furent nullement traités en captifs ou en esclaves. Ainsi parle Yahvé. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Recherchez le bien du pays où je vous ai envoyé en exil.
Remontez des températures de 5 à 11 degrés pour le nord.
Le vent se calme et les hommes de tout horizon partagent leur savoir au coin du feu.
Ces juifs déportés, la galoute, comme on disait en hébreu, c'était l'élite de la nation. Parmi eux, il y avait beaucoup de prêtres. L'un de ceux-ci, Ézéchiel, déporté dès 597 et fixé à Tel Aviv, se donna comme tâche non seulement d'arracher ses compatriotes exilés à toutes les tentations de découragement, il prêche la conversion, il annonce et décrit la résurrection du peuple saint.
Demain, peut-être il fera beau.
Et le week-end s'annonce très perturbé. Excellente journée à tous.
Ah non, toujours pas.
La maison de Jacob, dans les hautes vallées perses, est loin des centres de pouvoir de Babylone. Ses adeptes vont donc se refermer sur la préservation d'une tradition qui se veut plus authentique. Alors que ceux de Babylone vont transposer la tradition pour l'adapter au temps nouveau de l'époque. La maison de Jacob prétend avoir la légitimité, l'autre, la maison de David, va jeter les bases d'un nouveau pouvoir en donnant naissance à une nouvelle religion, le judaïsme. La maison de Jacob est organisée comme une secte, en petits groupes, avec chacun à leur tête un président. Président, en araméen, ça se dit Johann. Jean. Assemblée, en grec, ça se dit Ecclesia. La maison de Jacob va être appelée Église Johannique, parce que son organisation est basée sur des chefs d'assemblée, les gens. Ces assemblées sont aussi appelées des Pléiade. La Pléiade est un mot grec qui signifie naviguer. Or, la navigation commençait avec l'apparition dans le ciel d'une constellation de 7 étoiles que les Grecs, du coup, vont appeler Pléiade. Le sens du mot a glissé de la navigation au nombre 7 des étoiles de la constellation qui permettait cette navigation. Et le mot désormais sert à désigner une assemblée de 7 personnes illustres. La première Pléiade connue est celle du poète perse Ésope. La maison de Jacob en Perse ou Église Johannique va influencer le culte de Mithra, un culte perse qui se répand dans tout l'Empire romain, propagé essentiellement par les soldats.
Voulez-vous nous dire quelques mots du culte de Mithra ?
Mithra se rend maître du soleil et gorge le taureau, symbole de la nature sauvage. Et de la bête abattue jaillissent les plantes alimentaires, le blé, les animaux, la vie elle-même.
Et du sang du taureau découle la vie.
On peut concevoir Mithra non point comme le soleil, mais comme un dieu lié au soleil. C'est un dieu de la lumière et il est censé habiter l'espace intermédiaire entre le monde inaccessible de la lumière de la divinité supérieure et le monde inférieur où nous sommes et où sont les cieux des planètes et des étoiles. C'est donc un médiateur.
Mithra fait le lien entre le haut et le bas, entre le soleil et la terre,
entre le matériel et l'immatériel, etc., etc.
Ce qui permettra à certaines spéculations antiques d'assimiler le Christ et Mithra du fait que l'un comme l'autre joue entre la divinité suprême et notre monde, le rôle d'intermédiaire entre les images d'en haut et le monde d'en bas.
Renan a pu dire que si le christianisme avait été empêché pour une raison intérieure quelconque, le monde serait devenu mithriate ou mithriaste.
Et si le monde avait tourné différemment, le baptême serait loin d'un bain d'eau bénite.
Dans la religion de Mithra, le baptême des néophytes se faisait avec du sang de taureau, puisque c'était la bête qui était choisie comme symbole.
Mais encore,
cette cérémonie répugnante, selon certains, consistait à sacrifier le taureau placé au-dessus d'une fosse dans laquelle se tenait le personnage que l'on voulait initier, lequel se soumettait à ce bain de sang, faisait arroser par le liquide gluant ses yeux et ses oreilles, remplissait sa bouche pour être plus complètement soumis à ce baptême.
Que la force du taureau soit en vous.
Le culte de Mithra est un culte à mystère, un culte initiatique, avec des grades, mais surtout un culte monothéiste. Né au IIe siècle avant Jésus-Christ, beaucoup d'historiens pensent que le christianisme naît de ce culte avant même la naissance de Jésus. Cette église johannique pré-chrétienne va décider de rectifier le judaïsme qui procède de Babylone et va notamment créer les sectes esséniennes dont Jean le Baptiste serait un des initiateurs et dont un certain Jésus de Nazareth sera membre.
Sur France Inter.
Les Esséniens sont donc les héritiers directs des prêtres égyptiens, restés fidèles au monothéisme d'Akhénaton. Bien avant la naissance de Jésus, ils pratiquent dans leurs petites assemblées, qu'on appelle église johannique, le partage du vin et du pain. Le vin symbolisant le ciel, le monde de l'esprit, et le pain symbolisant ce qui vient de la terre. Tout ce qui va constituer le cérémonial chrétien est déjà dans ces petites assemblées bien avant la naissance de Jésus. Et voilà que cette église avant l'heure va se donner pour mission de réconcilier les deux traditions, les deux maisons, la maison de Jacob et la maison de David. Elle va avoir lieu, cette réconciliation, au moins une fois. Et quelle fois ? La fois où un certain Jean, dit le Baptiste, issu de la maison de Jacob, va rencontrer un certain Jésus, issu de la maison de David. Alors Jean va lui dire, devant toi, qui représente la majorité d'entre nous, il faut que je me fasse petit pour que tu deviennes grand. Et Jean va initier Jésus en le baptisant. Cet épisode, cette explication de texte entre la tradition juive et la tradition chrétienne est mentionnée non pas dans la Bible, mais dans le Coran. Dans la 19e sourate qui se nomme Mariam, le nom véritable de Marie. Le Coran réunit les traditions juives et chrétiennes ainsi que les spiritualités qui les ont précédées. Mais nous verrons ça ultérieurement. Un siècle avant Jésus-Christ donc, les descendants des prêtres égyptiens déportés en Perse vont vouloir rectifier le judaïsme de Babylone en pratiquant l'ascèse, en réinterprétant les textes et en réinstillant dans la pratique des éléments de plus haute authenticité, en mettant en avant les actes par rapport à l'écrit. Cette tradition des actes vient d'Égypte. Elle consiste à mimer, à transposer en une sorte de théâtre les grands événements cosmiques qui rythment notre vie sur Terre. Jésus va pratiquer ce langage des actes. De même, les évangiles vont s'appeler les actes.
Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles ?
Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir.
Jésus ne délivre pas une parole, mais il va avoir des comportements fantastiques. Quand il se promène au-dessus des eaux, il paraphrase en acte ce qui est écrit dans la Genèse, « Le Verbe se promenait au-dessus des eaux ». Il va faire vivre ce qui est écrit et auquel le plus grand nombre n'avait pas accès, puisque tous ne savaient pas lire, loin de là.
Action, vérité !
Action !
Avez-vous remarqué dans cette affaire de l'existence ou de la non-existence du monde l'importance accordée aux yeux ? C'est par les yeux que les hommes arrivent à l'état sentimental inouï qu'on appelle la certitude. Par les yeux qu'on doute.
Je crois ce que je vois. Je vois marcher Jésus sur l'eau. C'est irréel, mais je le vois, alors c'est vrai.
T'es capable ?
D'autres phénomènes apparaissent magiques et sont pourtant bien réels.
Qu'est-ce que c'est ?
Du vin !
Du vin ? On dirait du sang.
Exemple, le vin et le pain.
Le vin, qui est une boisson alcoolisée, provoque à partir d'une certaine dose un phénomène extraordinaire qui est longtemps apparu comme magique ou divin, religieux, qui est l'ivresse.
Ah ben, à recommander, fortement, très très bien, goûteux, fruité, pas trop sucré.
Pour vérifier la chose, nous nous servons un verre.
Buvez. En atteignant l'ivresse, les buveurs se rapprochent de Dionysos, voire deviennent Dionysos lui-même.
Oh tiens, ça marche. Il y a l'hologramme de Mélenchon qui apparaît et qui boit un coup avec nous.
Qu'est-ce que ceci, messieurs, dames ?
C'est du vin.
Nous savons tous que ceci peut avoir sa robe, son nez, sa bouche. Il a de la chair.
Il a de la cuisse.
Ou bien de la jambe. Il peut être rond, sec, charnu, corsé, fruité, profond, floral, terrien, aérien, charpenté, gouléant.
Et le pain ?
Le pain, on l'appelle baguette, miche ou tradition. Mais qu'a-t-il de magique ?
C'est un symbole de la vie, parce que le pain, encore plus que le jus de raisin en train de fermenter, ressemble à la vie en train de naître, c'est-à-dire à une femme dont le bébé croît dans son ventre. Et c'est ça, le pain qui est merveilleux, quand vous voyez à la chaleur ce pain qui est en train de se gonfler, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
En réfléchissant à tout cela, on se resserre un verre et on se fait une tartine de pâté.
La France est bien munie de produits régionaux et régionaux, hein ? Et on apprécie, hein ? Mais je ne sais pas si je peux reconduire en sortant.
Nota bene. L'abus d'alcool et de pâté est dangereux pour la santé.
À partir de ces gestes, à partir de ces actes, une spiritualité qui était réservée à une élite va être proposée au peuple, provoquant une rupture dans la communauté d'origine, comme à chaque fois qu'une religion initiatique est révélée au grand nombre. Le responsable est aussitôt banni de sa communauté, voire combattu. Ce sera le destin d'Akhenaton, de Moïse, de Jésus, de Mahomet.
L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains, et le vin quand il convient. l'eau et le vin. Je veux l'eau et le vin, la mer qui me revient. Je veux l'eau des marins, au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter, il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la terre et le venin, je veux l'eau des matins, aussi bon que le pain. Le vin qui me parle et l'eau qui ne dit rien. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter, il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains, l'eau. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Il est vain d'en rajouter.
André, faites-nous donc des miracles en musique, s'il vous plaît.
Comment est-ce qu'on fait des miracles en musique? Quelle bonne question. Comment est-ce qu'on traduit le sentiment de magie en musique? Le sentiment de magie, donc le sentiment surnaturel, et ben on va jouer que sur des accords majeurs. Parce qu'on va partir de cette idée d'une certaine majesté qui existe dans le ciel. On va prendre des accords à consonance biblique. C'est quoi des accords à consonance biblique, finalement? Encore une fois, c'est une succession d'accords majeurs. On a vu que dans notre gamme, telle qu'elle est organisée, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, eh bien, il y a deux demi-tons qui viennent à l'intérieur de cette gamme créer toute la dynamique entre le mi et le fa, et entre le si et le do. Par ailleurs, j'ai un ton entre le ré et le mi, un demi-ton entre le mi et le fa, un ton entre le fa et le sol, un ton entre le sol et le la, un ton entre le la et le si, et un demi-ton entre le si et le do. Ce sont ces deux demi-tons qui créent cette gamme comme nous la connaissons et qui nous semble tellement naturelle. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. S'il n'y avait pas ces deux demi-tons, voilà quelle gamme nous aurions. Si nous avions un ton entre chaque note... Ensuite, on a un autre sentiment, on a quelque chose qui ne s'arrête jamais. On n'a plus que 6 notes déjà au lieu de 7. Peut-être que c'est parce que le 7e jour, le créateur s'est reposé. Mais en tout cas, on n'a plus cette dynamique qui est provoquée par le déséquilibre des deux demi-tons. On a quelque chose comme ça. Alors si je monte ces accords-là maintenant, ma gamme d'accords, comme on l'a fait depuis le début, ma gamme d'accords diatoniques, j'ai un accord qui est majeur, le deuxième qui est mineur, le troisième qui est mineur, le quatrième qui est majeur, le cinquième qui est majeur, le sixième qui est mineur et le septième qui est diminué. Voilà, avec toute la couleur harmonique qui sont induites par ma gamme. Maintenant, si je décide qu'il n'y a plus que des accords majeurs qui se suivent, écoutez ce que ça me donne. Là, j'ai l'impression l'impression que carrément, il y a une autre autorité qui est en train de me parler. Donc tout d'un coup, il n'y a plus qu'un seul accord qui est majeur, comme si c'était Dieu le Père qui s'adressait à nous. Il n'y a plus de demi-tons qui viennent foutre le bazar avec les notes sensibles et puis cet intervalle du diable qui va donner le blues. C'est comme si tout d'un coup, on enlevait de la gamme les éléments perturbateurs et puis tout d'un coup, on est dans une sorte de sérénité dans laquelle on n'a plus la place pour le romantisme. Voilà un accord terriblement romantique. Vous voyez comme il est. Vous voyez comme il est mineur, vous voyez comme il est diminué. Et puis tout d'un coup, au lieu de ça. On a cette sorte de majesté. Alors maintenant, comment je traduis encore une fois ce sentiment majeur et ce sentiment de magie? Je vais faire une petite distorsion, c'est-à-dire que je prends un gros accord de Do. Donc voilà, vous pouvez vous amuser sur votre piano, c'est très facile. Vous plaquez que des accords majeurs qui se suivent à intervalles d'un ton. Maintenant, je vais prendre toujours mon accord de Do majeur. Et sur un accord de Do majeur, je vais jouer un demi-ton en dessous, un autre accord majeur. C'est-à-dire sur un accord de Do majeur que je vais jouer à ma main gauche, je vais jouer en Si majeur à la main droite. Vous allez me dire, mais ça c'est une dissonance terrible. Sauf que c'est la dissonance la pire qui puisse exister, c'est la dissonance qui est à un demi-ton. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre. Et là, vous avez l'impression qu'un miracle est en train de s'accomplir. Écoutez, je joue en Si sur Do. Et tout d'un coup, je résous. C'est vu comment ça fait du bien? Je recommence. J'ai la même chose en Fa, accord de Fa, et je vais jouer en Mi majeur, et puis pour finir par résoudre en Fa. Ça vient de loin, hein. Comme si j'étais dans un monde parallèle, majeur, mais pas du tout dans la même tonalité, mais pourtant très près. Et c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a un monde parallèle qui est là, tout près de nous, que seulement certaines personnes clairvoyantes perçoivent? Et de temps en temps, les deux mondes se rejoignent. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ils se rejoignent? Ainsi s'achève cette émission qui a pu être réalisée grâce à la maison de David Federman qui était au son et la maison de la Fanny Boyon qui était la réalisatrice et inspiratrice de cette émission et qui nous faisait des danses cosmiques derrière la cabine du studio. La maison d'Elsa Denac, la voix des anges. Et enfin la mise en musique était assurée par la maison de Muriel Pérez. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir dans notre maison à tous, la maison de la radio, la semaine prochaine.